Chapitre 15. En rentrant chez elle, Laurel allume son ordinateur portable, met ses lunettes et tape le nom Floyd Dunn dans son moteur de recherche. Ils ont discuté toute la soirée, jusqu'à ce que le restaurateur les chasse poliment. Il lui a proposé de poursuivre leur rendez-vous ailleurs, prétextant l'appartenance à un club des environs, mais pas un de ces endroits insipides, un bar avec des fauteuils et des vieux schnocks qui grommellent en sirotant du cognac. Mais Laurel ne voulait pas rater le dernier métro pour rentrer à High Barnet. Ils se sont séparés à Piccadilly Circus, et Laurel a passé le voyage du retour à sourire bêtement à son reflet éméché dans la vitre du wagon de la Northern Line. Maintenant, elle est en pyjama, une brosse à dents dans la bouche. Les vêtements qu'elle avait étalés sur le lit sont empilés sur le fauteuil, et son maquillage est éparpillé sur sa coiffeuse. Elle ne les rangera pas tout de suite. Elle veut se maintenir dans cette parenthèse hors du temps sans que le reste de sa vie s'y immisce. En quelques secondes, Laurel découvre que Floyd Dunn n'est pas un simple mathématicien, comme il le lui a dit lors du dîner, mais aussi l'auteur de plusieurs livres sur la théorie de nombres et la physique mathématique. Elle clique sur l'onglet « Images » et observe son visage à des moments divers de sa vie. Sur certaines photos, il est plus jeune. La trentaine, les cheveux un peu longs, la chemise ouverte. C'est ce portrait qui est utilisé sur ses premiers livres. Elle ne plaît pas à Laurel, qui n'aurait certainement pas partagé une part de gâteau avec un prof de fac solitaire des années 1980. Sur des photos plus récentes, il ressemble au Floyd qu'elle connaît. Même s'il a les cheveux plus sombres, décoiffé, et que ses vêtements sont moins élégants, c'est bien l'homme avec lequel elle a dîné. Elle veut tout savoir de lui, plonger dans son univers fascinant, et le revoir, encore et encore. Puis, elle pense à Paul, à sa Bonnie, et à l'incrédulité apathique qu'elle avait ressentie quand il lui avait annoncé qu'il avait rencontré une autre femme et qu'ils allaient emménager ensemble. Elle n'avait jamais compris comment il avait réussi à prouver de la tendresse pour autrui, faire des projets et tomber amoureux. Mais enfin, la même chose lui arrivait, et elle mourait d'envie de le lui raconter. « Paul, j'ai rencontré un type fabuleux. Il est intelligent, drôle, sexy et gentil. » C'est la première fois depuis des années qu'elle a envie de parler à Paul de quelqu'un d'autre qu'Ellie. Le silence radio du lendemain est insupportable. D'habitude, Laurel retrouve ses amis Jackie et Belle le samedi. Elle les connaît depuis l'école primaire, à Portsmouth. À l'époque, elle formait un trio inséparable. Mais un jour, il y a une trentaine d'années, quand elle faisait leurs études à Londres, Laurel les avait retrouvés dans un bar de Soho, et ses amis lui avaient annoncé qu'elles s'étaient avoué leur amour mutuel et qu'elles étaient ensemble. 11 ans auparavant, à 44 ans, Belle avait donné naissance à des jumeaux. Au moment où les enfants de Laurel sortaient enfin de l'enfance, ses amis étaient devenus mères. Après la disparition d'Ellie, leur maison d'Edmonton, pleine de couches, de tétines et de yaourts roses en tube, lui avait souvent servi de refuge. Mais elles ne sont pas là ce week-end. Les jumeaux ont un tournoi de rugby à Shropshire. Les minutes s'écoulent lentement dans l'atmosphère lourde de son appartement. Le bruit des voisins qui ferment les portes, appellent leurs enfants, démarrent leur voiture ou sortent promener leurs chiens accentue son sentiment de solitude. Floyd ne l'appelle pas, ne lui écrit pas. Elle n'a plus l'âge de jouer à ce genre de jeu. Et avant la fin de la journée, elle considère que cette histoire est finie. C'était une mauvaise idée. C'était impossible. Laurel est une personne brisée au passé suintant de tristesse. Et Floyd a profité de son charme pour obtenir un rendez-vous avec une femme. Ce qu'il peut faire tous les jours si ça lui chante. D'ailleurs, il est probablement assis à cet instant dans un café en train de partager une part de gâteau aux carottes avec une autre proie. Le dimanche, Laurel va voir sa mère. En général, elle s'y rend le jeudi. Elle en a fait une visite obligatoire pour s'empêcher d'annuler. Mais aujourd'hui, elle ne supporte plus d'être toute seule chez elle. Elle doit faire quelque chose. La maison de retraite de sa mère est située à Enfield, à 20 minutes en voiture. C'est un bâtiment récent en briques rouges avec des vitres teintées qui empêchent les passants de regarder à l'intérieur et d'y apercevoir le triste spectacle de ce qui les attend. Ruby a fait 3 crises cardiaques. Elle ne parle plus très bien. Sa vue baisse, et sa mémoire lui joue des tours. Elle est malheureuse et exprime très clairement à chaque visite son envie de mourir. Quand Laurel arrive à 11h30, sa mère est installée dans un fauteuil roulant. Elle a une assiette de biscuits à l'avoine et un verre de lait devant elle, comme si elle avait 4 ans. Laurel lui prend la main et caresse sa peau parcheminée. Elle la regarde dans les yeux et essaie, comme toujours, de voir l'autre personne, celle qui l'attrapait par un bras et une jambe avant de la jeter dans la piscine quand elle était petite, qui lui courait après à la plage, qui passait des heures à la coiffer et lui cuisinait des œufs comme ceux de son émission télé préférée. Sa mère avait une énergie inépuisable, symbolisée par ses cheveux noirs bouclés que tous les élastiques et les foulards du monde n'auraient pu dompter. Elle portait de petits talons pour pouvoir courir jusqu'au bus, sauter par-dessus des murets et rattraper les voleurs. 4 mois après la disparition d'Ellie, elle avait fait sa première crise cardiaque. Elle n'avait plus jamais été la même. « J'ai été dîner avec un homme cette semaine. » Sa mère hoche la tête et allonge sa bouche en un sourire. Elle essaie de dire quelque chose, mais ne trouve pas le mot. « Je sais que tu es contente, maman. »«
Fantastique !»
s'exclame-t-elle. « Oui, c'était très bien. Mais maintenant, je suis toute stressée, comme une ado. Je regarde mon téléphone sans arrêt dans l'espoir qu'il m'appelle. C'est pathétique. » Ruby lui sourit de nouveau, avec cette grimace que lui permet son cerveau endommagé.
« Non.
Il s'appelle Floyd. Floyd Dunn. Il est américain. Il a mon âge, il est extrêmement intelligent, beau, drôle. Il a 2 filles. La plus jeune vit avec lui, la plus âgée chez son ex-femme. » Sa mère hoche encore la tête.
« Tu... »
Laurel caresse la main de sa mère et lui adresse un sourire encourageant.
« Tu l'appelles. »
Impossible. Laurel éclate de rire et Ruby secoue la tête avec un air désapprobateur. Vraiment? C'est déjà moi qui l'ai appelé la première fois. C'est à son tour maintenant. Sa mère lève les yeux au ciel. Peut-être que je pourrais lui envoyer un message pour le remercier. On verra ce qu'il en fait. Ruby approuve et tapote la main de Laurel avant de la serrer doucement. Elle a toujours adoré Paul. Depuis le premier jour.
Ma chérie, bravo. Tu t'es trouvé un homme bien. Prends soin de lui. Fais tout pour le garder.
Laurel, gênée, avait souri. Elle n'avait jamais cru au conte de fées. Sa mère n'avait pas bien vécu la rupture, mais elle avait compris. Elle avait beau être romantique, elle savait se montrer réaliste quand il fallait. La combinaison parfaite. Ruby tend le bras vers le sac à main de Laurel, fouille un instant, sort son téléphone portable et le tend à sa fille. « Maintenant ?» Ruby acquiesce. Laurel soupire et commence à écrire. « Ce sera ta faute si ça se passe mal. » la prévient-elle avec un air faussement sérieux. Elle envoie le message et range son téléphone dans son sac, horrifiée par ce qu'elle vient de faire. « Merde !» s'écrie-t-elle en se prenant la tête des deux mains. « T'es vache. Je n'en reviens pas que tu m'aies fait faire ça. » Sa mère rit de ce rire étrange, enroué, qui vient du fond de sa gorge. C'est tout de même un éclat de rire, et c'est le premier que Laurel entend depuis très longtemps. 2 secondes plus tard, son téléphone sonne. C'est lui.